Donc, cette troisième table ronde porte sur la féminisation des métiers de la justice. Comme vous le savez, la forte féminisation des études de droit et des métiers de la justice est une tendance que l'on retrouve finalement aussi plus largement dans l'ensemble des métiers qualifiés, que ce soit les professions libérales, les cas de la fonction publique ou des entreprises. Et c'est une évolution vraiment majeure du monde de la justice. Mais féminisation ne signifie pas absence de différenciation, avec une ségrégation horizontale. Les femmes n'exercent pas encore les mêmes spécialités du droit que leurs confrères. Elles sont plus nombreuses en affaires familiales qu'en affaires économiques, par exemple. Et une ségrégation verticale. Les femmes accèdent toujours moins aux postes de prestige et de pouvoir dans ces univers. Donc l'entrée des femmes au barreau de Paris a fait l'objet de débats, de mobilisations, de résistances, qui ont été étudiées de manière pionnière, notamment par les travaux d'Anne Boisjol, dont je vous conseille la lecture. Dans le cadre de cette table ronde, Juliette Rennes, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'HESS, vous propose de revenir sur les luttes des premières avocates au tournant du siècle, 19e et 20e. Ce sont des luttes qui sont à dimension professionnelle, accéder, puis progresser dans les différents secteurs de la justice, mais qui ont parfois eu une tonalité féministe, les avocates ayant été des grandes figures de la cause des femmes et de l'avancée des droits des femmes. Juliette est l'auteur de deux ouvrages remarqués sur l'accès des femmes aux positions de prestige, Le mérite et la nature, publié en 2007, et Femmes en métier d'homme, en 2013, à partir de cartes postales et de photographies, qui fait d'ailleurs l'objet d'une exposition au musée d'histoire vivante à Montreuil jusqu'en décembre, si cela vous intéresse. Elle coordonne à l'EHESS un master genre politique et sexualité. Mais tous les métiers de la justice ne sont pas entrés dans l'âge de la mixité, et certains demeurent des bastions masculins, particulièrement quand ces métiers sont reliés, que ce soit en symbole ou en pratique, à la question du maintien de l'ordre, l'exercice de la violence légitime, l'usage des armes, comme l'a montré par exemple Geneviève Pruvot dans son autre histoire de la police qui s'appelle « De la sergeote à la femme flic ». Et dans notre table ronde, Cécile Rambourg, qui est sociologue, qui est membre du laboratoire de recherche CIRAP de l'École nationale d'administration pénitentiaire, va se pencher sur la féminisation des personnels pénitentiaires entre transgression et conformation. Donc elle va vous montrer les stratégies et représentations des femmes, situées notamment à deux endroits de la hiérarchie professionnelle, les surveillantes de prison et les directrices d'établissements pénitentiaires. Nous avons une troisième intervenante dans notre table ronde, Marie-Françoise Lebon-Blanchard, qui est en charge de l'égalité des droits au ministère de la Justice, qui réagira à ces présentations. Elle a une carrière qui l'a menée de juge d'instruction à président d'un tribunal de grande instance, et aujourd'hui elle est en charge de ce dossier égalité femmes-hommes. Elle va nous dire en quelques mots au départ. La période est propice à ce sujet, puisque l'État s'est donné comme mission, vous le savez, d'être exemplaire sur l'égalité femmes-hommes pour ses propres agents, particulièrement depuis la loi de 2012, qui marque un tournant important, puisque des objectifs chiffrés de féminisation des emplois supérieurs de la fonction publique ont été édictés. Et Marie-Françoise est aussi une femme engagée sur ce sujet, puisqu'elle préside l'association Femmes et Justice, une femme de justice, femme de justice, créée l'année dernière dans le sillage d'autres associations de ce même style qui se créent dans les différents ministères. Donc, avant les présentations des travaux académiques, Marie-Françoise, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre fonction et la politique du ministère ?
Alors, oui, je suis effectivement actuellement à l'inspection des services judiciaires, donc, et j'ai cette fonction de haut fonctionnaire en charge de l'égalité. J'ai été désignée par Madame la Garde des Sceaux pour porter une politique publique qui a été initiée au départ par Monsieur Hérault quand il était Premier ministre, cette politique d'égalité. Et il y a les hauts fonctionnaires à l'égalité sont répartis sur tous les ministères. Il y en a un par ministère, nommé par son propre ministre. Et ce sont un peu, si vous voulez, les têtes de pont du ministère. droits des femmes dans les différents ministères. Nous avons, vous avez parlé, madame, d'objectifs. Nous avons innové une nouvelle technique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu au travers de multiples rapports. J'avais quand même les repères chronologiques sur la parité. On est en 2014, on a commencé en 1936. Les premières sous-secrétaires d'État, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Et là, on est, il y a une loi qui a été édictée en 2014, qui est la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, donc cette fameuse loi d'août dernier. Donc, si vous voulez, on est dans un cheminement qui va vers la parité, l'intégration des femmes, non pas parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles font partie de l'humanité. C'est pas... c'est tout, hein. Non, non, mais je le dis parce que parfois, on pourrait penser que nous faisons partie des discriminations, etc. Non, nous sommes au même titre que les autres. Et ça, c'est très important de le dire. Et donc, comme haut fonctionnaire, mon travail, c'est notamment, par exemple, quand il y a un projet de loi qui peut impacter, qui peut toucher, qui touche à la parité, je dois être consultée par le porteur de cette loi dans mon ministère, par exemple. Mais ce n'est pas facile, parce que si vous voulez, ce n'est pas la culture actuellement. C'est un nouveau métier que j'exerce, hein, c'est un nouveau métier, et donc il faut que je me fasse connaître. Il y a également des politiques publiques qui sont initiées par le ministère de la Justice, et je vous invite à aller sur le site du ministère des droits des femmes, où vous avez les feuilles de route, ce qu'on appelle les feuilles de route des hauts fonctionnaires en charge de l'égalité, où vous avez tous les ministères qui se sont fixés justement des objectifs. Alors il y a le bilan et les objectifs. Et ça, il faut qu'on le réalise au cours de l'année 2015. Et mon travail, c'est d'aiguillonner chaque direction, les écoles, etc., pour arriver à remplir les objectifs. Parce que, par exemple, pour la magistrature en France, on a plus de 63% de femmes qui sont magistrats. Ce n'est pas un problème. Mais c'est une réalité, je ne veux pas qu'on dise que les femmes sont un problème dans la magistrature, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Ces jeunes femmes qui arrivent, qui réussissent des concours, qui sont en général brillantes, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans 10 ans, dans 20 ans? Nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de leur donner un développement de carrière au même titre que les hommes, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez, c'est quand même très important de se fixer des objectifs, de se projeter et d'organiser aussi la justice en fonction de cela. C'est-à-dire se dire que quand il y a une proportion de femmes qui arrivent dans la magistrature, une grande proportion de jeunes femmes qui arrivent dans la magistrature et qui sont en état d'avoir des enfants, ça peut se calculer statistiquement, hein, je pense que... Eh bien, pourquoi ne pas mettre, par exemple, plus de juges placés? Les juges placés sont les juges qui remplacent en cas de vacance de poste. Pourquoi ne pas mettre plus de juges placés dans le Nord, où il y a plus de jeunes femmes qui arrivent dans le Nord, qu'à Aix-en-Provence, où la moyenne d'âge est plus élevée, et donc il y a moins de chances que ces dames aient des enfants. Vous voyez? Donc c'est des choses très concrètes. C'est des choses qui alors, à la fois, c'est concret, et aussi, ça profite à tout le monde. Et je me souviens très bien des vœux de Madame la Garde des Sceaux quand elle disait « Je souhaite que avoir des fonctionnaires et des magistrats et que tous les gens qui travaillent dans mon ministère soient heureux. » Mais il y a de ça aussi, c'est-à-dire être heureux, avoir un bon équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle, et ben je trouve que c'est bon aussi pour la justice. En général. Alors ça, c'est mon côté haut fonctionnaire, mais j'ai une autre casquette, et permettez-moi quand même de le présenter aussi, puisque je suis annoncée comme telle. Je suis présidente de l'association Femmes de Justice, qui s'est créée il y a à peu près un an. Elle a un an, cette association, et nous sommes au moins 300, même plus de 300, parce que j'arrive pas, comme c'est évidemment un travail bénévole, on a beaucoup d'adhésions, hein, qui arrivent. Nous avons déjà fait un certain nombre de manifestations. nous sommes une association transdirectionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des magistrats, il y a des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse et des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire. On a choisi de privilégier en quelque sorte les cadres A et A+. C'était une volonté de cette association, hein, qui est loi de 1901. Donc c'était cette volonté-là. Et on a travaillé récemment, nous avons travaillé en concertation avec d'autres associations, qui sont l'association Femmes de l'Intérieur et l'association Femmes et Diplomatie, sur l'impératif de la mobilité géographique. Donc vous voyez, c'est des choses très concrètes. Et je pense que notre action, c'est aussi de peser sur le ministère, c'est aussi d'être un interlocuteur du ministère pour être un aiguillon et pour faire avancer les choses. Voilà, ces deux casquettes font qu'il faut vraiment que j'avance. Merci.
Merci beaucoup. Donc j'ai proposé pour le petit temps qui m'est imparti de faire un retour en arrière sur les années 1900 et une période où s'est posée de façon assez large dans le débat public la question de l'accès des femmes aux professions de justice et à la première qui a été féminisée en France de façon plus précoce que dans d'autres pays européens, qui est le barreau. Et les débats qui se sont noués autour des premières avocates. L'image que je vous mets en arrière-plan est celle de la première, de la dite première. Alors il y a souvent des débats aussi sur la nature première ou pas, j'y reviendrai, mais la dite première avocate en France, femme avocate comme on disait à l'époque, qui sûrement une partie d'entre vous connaissent de nom, qui s'appelle Jeanne Chauvin, et c'est un autoportrait, au sens où c'est un autoportrait, un portrait qu'elle a fait faire d'elle-même, un portrait dont elle contrôle, disons, l'image, et qui on verra, est assez, assez différent des portraits caricaturaux qui ont été faits par ailleurs, en costume d'avocat en 1902, un an et demi après avoir été, après avoir prêté serment d'avocat en 1900. Alors, le nom de Jeanne Chauvin est relativement familier, ou en tout cas, il n'est pas complètement inconnu des historiennes du travail et des gens du barreau, notamment parce qu'il y a eu une redécouverte depuis une dizaine d'années de ces diverses pionnières, les premières femmes à accéder aux métiers, aux professions qui avaient toujours été réservées aux hommes. On trouve facilement aujourd'hui des chronologies, des petites biographies de ces pionnières, et un des signes de la reconnaissance institutionnelle, même si elle est limitée, est le nom d'une rue qui a été attribuée il y a quelques années à Jeanne Chauvin, et ça est le nom d'une salle d'audience au palais de justice, une reconnaissance symbolique qui aurait bien étonné et scandalisé une partie des avocats qui se sont opposés à son accès au barreau dans les années 1900. Alors, ce que je vais faire, c'est pas ériger ou héroïser cette pionnière ou les quelques autres pionnières qui ont accédé au barreau, mais restituer quelques éléments du contexte dans lequel elles ont accédé à ce métier. Et si j'ai proposé le terme de lutte, les luttes des premières avocates pour cette petite présentation, c'est parce qu'il a fallu évidemment batailler pour accéder à ce métier. Il y avait de nombreuses résistances que je présenterai, mais ces luttes se sont poursuivies au sein de leur activité professionnelle. Elles étaient à la fois des militantes et des avocates, et les deux fonctions ont été longtemps indissociables pour cette première génération, notamment parce qu'elles utilisaient le droit et leur connaissance du droit comme une arme militante dans un contexte où les femmes n'étaient pas citoyennes. Donc je vais présenter quelques éléments de ce contexte et des résistances. Elles étaient vues à la fois donc, comme des avocates au sens professionnel, mais aussi métaphoriques, hein, comme des avocates de la cause des femmes. Et on verra comment, pour ces premières années du XXe siècle, caricature ou l'héroïsation de la femme féministe comme type hein, des féministes a souvent été représentée sous les traits d'une avocate. Alors, premier élément, j'ai dit qu'elle était peut-être pas tout à fait la première, qu'on pouvait discuter de son statut, ça renvoie à une question de cette première génération de... Alors, il est difficile de parler d'un groupe de femmes parce qu'elles étaient quelques-unes à la fin du 19e siècle, et ça nous renvoie à une question qui est celle de savoir qu'est-ce qui a rendu possible, par-delà l'héroïsation de quelques femmes, cette revendication d'accès d'abord aux études de droit et puis aux carrières d'avocat. Alors, un des premiers éléments qui a été un peu mis au second plan dans l'historiographie et qui commence à être retravaillé, c'est la présence de migrantes à Paris et notamment d'une élite intellectuelle issue d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Alors vous avez ici une autre première qui n'est pas Jeanne Sauvin, on voit qu'il y a une dispute même à l'époque sur le statut de pionnière, qui est Madame Petit, donc un nom bien français, mais Madame Petit et Léa Balakovskaya, qui est née en Ukraine et qui s'est mariée avec un avocat, Eugène Petit, en 1896. Et elle a été la première, une semaine avant Jeanne Sauvin, à prêter serment d'avocat en 1900, et elle est assez représentative de cette élite intellectuelle russe ou polonaise ou d'Europe centrale et de l'Empire russe ou de la partie polonaise occupée par la Russie qui est assez francophile, vient étudier en France le droit, la médecine, les arts. Hein. Il y a aussi parmi les premières étudiantes en art beaucoup de femmes russes et polonaises. Et ces premières étudiantes, les Russes et les Polonaises représentent 70% des étudiantes à Paris au tournant du siècle, et les étudiantes étrangères en général représentent plus d'un tiers des étudiantes parisiennes. Une partie d'entre elles est juive et fuit aussi les pogroms et l'antisémitisme dans l'Empire russe. D'autres, notamment en médecine, poursuivent à Paris des études médicales après avoir été exclues en tant que femme ou en tant que juive ou les deux de leur cursus en médecine en Russie. L'autre pionnière dans ce parcours d'accès aux études de droit est une Roumaine hein, qui s'appelle Samira Bilsescu, qui en 1890 est la première femme qui va réaliser à Paris une thèse de droit, après avoir été la première étudiante en droit à Paris quelques années auparavant. Et elle est elle-même issue de l'élite roumaine, plutôt élite politico-économique, famille. Son père est un économiste membre du Parti National Libéral et sa mère est une militante féministe roumaine. Donc il y a cette présence de migrantes alors, ce n'est pas par chauvinisme, sans mauvais jeu de mots, que Jeanne Sauvin a été érigée en première femme avocat, mais parce qu'elle a, j'y reviendrai, mené la lutte pour la féminisation du barreau. Alors, un des éléments intéressants à noter dans les trajectoires de ces migrantes d'Europe centrale et orientale, c'est la façon dont elles ont, dans leurs revendications d'accès à ses études de droit et au barreau, mobiliser une stratégie argumentative qu'utilisent beaucoup les féministes françaises de l'époque, qui est d'utiliser la devise républicaine, égalité, liberté, fraternité, et y compris un imaginaire révolutionnaire, égalitaire, qu'elles ont nourri à l'étranger sur la France. Et selon une anecdote qui circule beaucoup à l'époque, donc Samirza Bilsescu, la première donc, étudiante roumaine à Paris qui va être la première docteure en droit, raconte « Ce ne fut pas commode de pénétrer à l'école de droit. Les dames n'entrent pas, vous répondez l'huissier à la porte. Le conseil de la faculté fut appelé à statuer. Comment, dit ma mère, donc sa mère militante féministe roumaine, comment, dit ma mère au secrétaire, dans un pays où il est écrit, même sur les portes des prisons, liberté, égalité, fraternité, vous empêcheriez une femme de s'instruire rien que parce qu'elle est une femme. Ces paroles furent rapportées au conseil et quelques jours après, l'autorisation de suivre les cours me fut accordée. Alors, il y a une réécriture rétrospective de l'effet performatif de la formule liberté, égalité, fraternité pour l'accès aux études de droit, mais on voit qu'il y a cette croyance partagée, et ce récit est beaucoup repris à l'époque, sur la contradiction entre un régime qui proclame l'égal accès, la méritocratie et l'exclusion des femmes. S'agissant des parcours de ces premières Françaises, des premières Françaises comme Jeanne Chauvin vers les études de droit et le barreau, il y a des éléments d'analogie et de différence avec ces migrantes. Alors, elles sont vraiment très très peu nombreuses. Hein. Elles sont trois ou quatre étudiantes en droit dans les années 1884-85, et il y aura au début du XXe siècle trois ou quatre, cinq maximum avocates en 1905-1906. Donc on est sur des populations très très limitées. Le parcours de Jeanne Chauvin est donc un peu différent. Elle vient de la moyenne bourgeoisie de province, elle est fille d'un notaire qui meurt quand elle a 16 ans, et elle va poursuivre des études de droit comme son frère, dont elle est plus âgée de 8 ans. Donc elle va suivre un parcours décalé en âge, puisqu'elle va préparer un doctorat en même temps que son frère, donc elle va être une vieille entre guillemets docteur, et elle accédera au barreau à 38 ans. Et ces parcours décalés sont assez typiques au-delà du droit de l'accès des femmes à l'époque aux études, puisque le baccalauréat n'est pas encore ouvert aux femmes, donc elles doivent le préparer en candidate libre, et souvent c'est après avoir travaillé, et parfois après des trajectoires militantes ou d'autres métiers, qu'elles se décident à passer le baccalauréat. Ce sera le cas aussi des avocates quelques années plus tard, comme Maria Véron, qui va passer son baccalauréat à 28 ans, pour ensuite passer la licence de droit. Donc elle est assez représentative de cette petite population au-delà des étudiantes en droit, de ces premières étudiantes en médecine, en lettres, en pharmacie, qui se multiplient toutes choses égales par ailleurs, enfin qui apparaissent plutôt à la fin du XIXe siècle, au sens où elle vient d'une trajectoire de bourgeoisie appauvrie, et le diplôme doit servir compenser une dot absente. Hein, son père est mort, et donc il y a une stratégie de plusieurs femmes issues de la bourgeoisie faire des études pour ne pas se déclasser. Le discours égalitaire, républicain, méritocratique qui est mis en exergue par la Troisième République à l'école est mobilisé par ces femmes, ces jeunes filles, parfois par leurs parents, pour pour accéder, comme leurs frères, à des carrières et des études qui sont celles donc de la bourgeoisie masculine, et en particulier le droit, même si évidemment les carrières ensuite seront très différentes, puisque le frère de Jeanne Chauvin va lui aussi entrer au barreau, mais il fera ensuite une carrière de journaliste, de député, alors que Jeanne Chauvin, après avoir accédé au barreau, deviendra enseignante de droit dans un lycée féminin et fera du conseil juridique. Troisième élément qui caractérise le parcours des premières avocates, c'est ces dispositions militantes qui ont été évoquées par Sophie Pochic. Beaucoup d'entre elles décident de faire des études de droit ou de devenir avocate après avoir eu des engagements féministes. Donc les mouvements féministes se structurent dans le dernier tiers du 19e siècle, et on trouve la plupart des signatures des premières avocates, avant qu'elles soient devenues avocates, dans des journaux féministes de l'époque pour réclamer le droit des femmes. Et c'est d'abord une connaissance autodidacte du droit pour des raisons de revendication, dénonciation de l'inégalité femmes-hommes dans le code civil, ou comme Jeanne Chauvin, rédaction d'une proposition de loi pour que les femmes soient autorisées à être témoins dans les actes de mariage en 1893, qui les conduisent à vouloir s'engager dans les professions juridiques. La thèse de Jeanne Chauvin elle-même porte sur un sujet politiquement engagé, qui elle travaille sur sa thèse de droit porte sur les professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français, l'évolution historique de la position économique de la femme dans la société. Donc un sujet qui est perçu comme polémique, puisqu'elle elle a recours à l'histoire pour essayer d'argumenter en faveur et au droit comparé de l'accès des femmes à toutes les professions, et son militantisme est aussi une réaction aux réactions qu'elle suscite, puisque elle doit se battre pour pouvoir soutenir cette thèse. Plusieurs fois, la soutenance est reportée à cause du chahut des étudiants. Donc, je mentionnais le fait que beaucoup d'autres avocates, Maria Vérone par la suite, et André Lehmann pour Yvonne Letter, etc., donc qui sont des femmes avocates qui accèdent à la profession dans les années suivantes, pour Maria Vérone en 1908 et puis pour les autres dans les années 20, ont aussi des parcours militants. On retrouve, je disais, leur nom dans les journaux féministes de la fin du 19e siècle, et on voit aussi qu'elles n'hésitent pas à utiliser leur statut d'avocate pour revendiquer le suffrage des femmes, le droit de vote des femmes, comme ici en 1914. On a une photographie qui représente donc Maria Vérone, qui est avocate depuis 1908, avec son mari qui est un avocat et militant féministe et journaliste qui s'appelle l'Ermite, et puis deux autres avocates qui posent aussi en costume d'avocat pour revendiquer le droit de vote en février 1914. Ce qui contribue aussi à susciter l'hostilité envers les avocates, j'y reviendrai, qui sont perçues comme utilisant leur statut pour faire avancer la cause du droit des femmes. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire dire que qu'est-ce qui fait, malgré donc ces éléments que j'ai mentionnés qui sont relativement favorables à la féminisation ou à l'accès des femmes à ce métier, notamment le développement du discours méritocratique et les revendications des femmes, qu'est-ce qui fait que il y a une telle résistance, car il y a de fait une résistance très importante à l'accès des femmes au barreau. Ce n'est pas seulement une résistance localisée, corporatiste, mais une résistance qui s'étend à l'ensemble du débat médiatique et politique. Alors, juste quelques éléments de contexte. Le débat se déroule de façon intensive, le débat contre ou pour les femmes avocates de 1897 à 1900, et l'année 1898, dans la presse, le nom de Jeanne Chauvin apparaît 20 fois par jour, et on compare l'affaire des femmes avocats à l'affaire Dreyfus. Alors, l'histoire est que Jeanne Chauvin, une fois docteur en droit, a voulu prêter serment d'avocat. Il fallait une licence seulement, donc elle était déjà surdiplômée, mais le barreau lui a refusé, donc elle a réagi à ce refus, et ça aboutit à une proposition de loi au Parlement, d'abord discutée à la Chambre des députés, puis au Sénat, qui a très largement mobilisé les députés, les sénateurs, et puis les médias. Alors, on peut interpréter cette ampleur du débat par la capacité d'enrôlement des avocats à leur cause de toute une série d'acteurs du débat public et médiatique, puisque les avocats sont aussi souvent des journalistes, sont aussi souvent des députés. Donc ils étaient dans la situation sociale de pouvoir mobiliser autour de la cause des femmes avocats toute une série d'acteurs en faisant valoir que La féminisation du barreau pose des questions beaucoup plus générales qui bouleversent la société dans son entier, sur l'ordre des sexes, etc. Mais malgré tout, il y a, en dehors du champ des avocats eux-mêmes, il y a véritablement un intérêt de l'ensemble de la société. La société est interpellée par ces femmes avocats et je vais présenter quelques éléments. Alors, je vous avais signalé l'assimilation de l'avocate à la féministe. C'est assez caractéristique dans ces images, puisqu'elle s'intitule « La femme émancipée ». Et derrière ce terme d'époque, hein, « femme émancipée »,« femme nouvelle », on représente souvent des avocates. Et les éditeurs, un parmi d'autres ici de carte postale, ont joué des comédiennes en costume d'avocat. Et ces images sont diffusées, circulent très largement dans la France des années 1900. C'est une façon aussi de réfuter en images les revendications féministes, puisque qu'est-ce qu'une femme émancipée qui ne peut pas mener jusqu'au terme sa plaidoirie, puisqu'elle est interrompue par sa vocation maternelle. Ces cartes postales sont très largement commentées, donc la façon dont la figure de la femme avocat interpelle les contemporains se lit non seulement dans le goût des éditeurs pour ces images, mais aussi dans le goût des expéditeurs pour l'achat de ces images. Donc, beaucoup d'éditeurs refont les mêmes... qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup d'éditeurs reprennent ce motif avec des comédiennes différentes. Et les expéditeurs font des commentaires comme celui-ci. Voici une carte postale qui représente une petite femme bien mignonne. Si elle plaide aussi bien qu'elle est aimable, ça doit être un véritable plaisir de l'entendre. Et l'assimilation de l'avocate à la féministe se lit dans le texte qui est censé incarner, mettre en mots la plaidoirie de cette avocate, puisqu'il s'agit d'une série de 15 cartes et... la plaidoirie va être une satire des revendications féministes d'égalité des sexes, c'est-à-dire montrant une avocate qui confond l'espace du barreau et un espace de politique de revendication du droit des femmes. Autre marque d'interpellation par les contemporains de cette figure d'avocate, on la retrouve dans des publicités jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc pour les pastilles Rickless, qui sont censées améliorer la voix de l'avocate intimidée par l'exercice de la plaidoirie, ou sur des boîtes tout simplement de chocolat comme ici. Elle est aussi une figure très présente dans les chansons du café-concert, où on met en scène sur un mode burlesque l'avocate recevant ses clients à domicile. Elle est enfin une figure très importante de la comédie de boulevard, donc un spectacle typique du loisir, de la bourgeoisie de l'époque. Et puisque l'espace de la comédie de boulevard est surtout le foyer bourgeois et l'espace privé, ce qui intéresse les boulevardiers, c'est ce qu'il advient de l'intérieur et du foyer de l'avocate, de cette femme bourgeoise qui travaille à l'extérieur, et comment son foyer est transformé par ce nouveau statut. Alors on voit bien qu'il s'agit d'une question propre à la bourgeoisie, puisque de nombreuses femmes de milieu populaire à l'époque travaillent. Il y a quasiment la moitié de la population parisienne, de population active parisienne, qui est composée de femmes, et en particulier d'ouvrières. Donc la question du changement des rapports de sexe quand les deux travaillent est plutôt une question de la bourgeoisie. Et il y a des femmes qui accèdent à des métiers masculins à l'époque, comme le métier de cocher, et on s'interroge beaucoup moins sur ce qu'il advient de l'intérieur du foyer des cochères. Les premiers films muets, dans le prolongement aussi des boulevardiers et des pièces de théâtre, font de l'avocate un personnage de courts-métrages, que ce soit du côté des productions Pathé ou Gaumont. Ici, en 1908, quelques captures d'écran de l'avocate donc fumant chez elle, et dont un des éléments du ressort comique, c'est qu'elle ne détache jamais les yeux de ces gros livres de droit. Donc là, on voit mal, mais un bébé sous son livre. Et là, elle oublie, elle laisse brûler le repas qu'elle est en train de faire parce qu'elle est trop occupée à ses lectures. Et enfin, aussi personnage de roman, Colette Hiver, une romancière antiféministe et catholique de l'époque, écrit en 1910 « Les Dames du Palais ». Là aussi, satire de ces femmes nouvelles qui briguent des carrières au barreau. Alors, pourquoi cette fascination des contemporains dans la culture visuelle, dans le spectacle, dans les loisirs et dans les médias pour l'avocate? Il faut peut-être rappeler quelques caractéristiques de la profession à l'époque. C'est une profession qui concentre un certain nombre de caractéristiques qui ont toujours été inaccessibles aux femmes. C'est une profession qui cumule le pouvoir statutaire du titre, se faire appeler maître, et beaucoup des contemporains s'indignent à l'idée qu'au fond, ces femmes rêvent de s'entendre appeler maître. Ce pouvoir statutaire du titre qui peut jouer dans une multiplicité de situations sociales, et non pas seulement au barreau, puisque ça fait partie de ces professions dont le titre peut être une source d'avantages et de bénéfices dans une multiplicité de situations de la vie sociale. Autre élément qui est inédit dans l'histoire du travail féminin, et qui scandalise une partie de la bourgeoisie de l'époque, c'est le port de l'uniforme. Rares ou exceptionnels sont les professions, les métiers féminins à uniforme, à part dans les ordres religieux, mais l'armée, la justice, la police sont dans leur ensemble fermés aux femmes, et la question aussi des effets statutaires de l'uniforme est quelque chose qui est particulièrement controversé. Je vous ai montré tout à l'heure le portrait que Jeanne Sauvin a fait faire d'elle-même. Il est assez, je disais, en contraste avec les représentations satiriques des avocates qu'on représente dans des robes qui, contrairement à la robe des gens de justice qui affirment leur pouvoir statutaire en neutralisant leur identité civile, devient dans les satires une robe qui au contraire souligne les formes féminines et donc désactive la dimension de pouvoir que l'uniforme est censé incarner. Enfin, la pratique de l'art oratoire et de la parole publique est aussi un monopole d'un certain nombre de professions masculines à l'époque et présentée comme incompatible avec la nature et le rôle féminin. Cet expéditeur accuse les avocates de piailler, une façon donc de ramener leurs paroles à une dimension non pas argumentative et rhétorique, mais à un son donc d'animal. Alors, il y a... Il me reste une minute. Il y a dans ces éléments de résistance des deux dimensions qui peuvent apparaître contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois les femmes sont accusées en entrant au barreau de faire entrer dans un univers voué à la neutralité des rapports professionnels un corps, donc de désacraliser la fonction parce qu'elles incarnent en tant que femme, la corporéité maternelle, on voit qu'elle profane l'espace du barreau par l'allaitement, par le fait de s'occuper d'un bébé. On les voit aussi dans toutes ces comédies de boulevard écumer le pot-au-feu à la barre, donc venir avec dans un espace professionnel sacralisé avec tout l'attirail de leur monde privé, ou un corps sexualisé, comme... dans ces représentations, donc elles sont susceptibles d'utiliser, dit-on, leurs arguments physiques à la barre en lieu et place des règles rhétoriques, et donc de convaincre le juge par leur apparence. Et en même temps, on voit dans les entretiens qui ont été faits à l'époque, je finirai là-dessus, par un avocat avec une cinquantaine de ses collègues au barreau et qu'il a publié en 1931, donc quelques, déjà plusieurs décennies après l'accès des femmes au barreau, que malgré tout, la figure du bon avocat, telle que représentée par les collègues du barreau qui sont hostiles à la mixité, est une figure aussi incarnée, un corps masculin. Ils disent que les femmes n'ont pas les épaules pour le rôle, qu'elles ne sont pas assez costauds, que toute plaidoirie est un pugilat, que ça ressemble à un match de boxe, qu'il faut avoir la voix qui porte et qu'il faut avoir un certain type de langage, policé, bourgeois, etc. Et donc on voit se dessiner en creux dans la critique des femmes avocates que le métier d'avocat a un corps, mais que ce corps renvoie plutôt à un corps masculin bourgeois, puisque, pour faire une dernière comparaison, les critiques qui ont été étudiées aussi à l'époque envers les avocats naturalisés, qui n'ont pas la bonne façon de parler, qui n'ont pas, diraient les sociologues, l'habitus des avocats ou de l'art oratoire à la française, hein, c'est des termes qui reviennent chez les avocats de l'époque qui s'opposent aux avocats naturalisés, donc qui ont été fraîchement naturalisés, c'est-à-dire qui sont issus de la migration à l'époque, c'est qu'ils n'ont pas cet art oratoire de la tradition française. Et on voit comment ces doubles critiques parallèles des femmes et des avocats étrangers renvoient à cette norme invisibilisée du corps masculin bourgeois blanc qui est représenté et invisibilisé dans la pratique oratoire. Merci.
Marie-Françoise, même s'il est toujours difficile de réagir du point de vue contemporain sur une période historique avec d'aussi fortes résistances, est-ce que, par exemple, pour vous, il y a désormais une absence de résistance à la féminisation très forte des professions de justice, que, par exemple, ces remarques désormais n'ont plus droit de citer dans le monde de la justice ?
Non. Écoutez, je réponds tout de suite non, c'est pas possible, parce que quand je vous ai entendu, j'ai entendu encore des remarques qui ont été faites sur les femmes, sur la disqualification systématique parce qu'elles sont dans des lieux de pouvoir, sur le fait qu'on ne regarde que la façon dont elles sont habillées, sur le fait de, par exemple, on va dire à une femme, vous êtes, c'est une femme politique qui l'a dit récemment au Sénat, elle était présentée, elle rentrait, elle avait été élue, il y avait cinq élus, quatre hommes et une femme, elle était la seule femme. Le président du Conseil général à l'époque présente les hommes en disant « vous avez tel parcours » et arrivant à la femme « et voici le plus joli sourire du Conseil général ». Alors, bon, c'est une histoire vraie. Hein, c'est la... et voilà comment on disqualifie la femme. Voilà, c'est ça. Et finalement, au travers de l'histoire, je retrouve des stéréotypes, je retrouve les mêmes choses que peut-être beaucoup d'entre vous avez vécu. Cette disqualification, le fait aussi de culpabiliser systématiquement la femme, c'est-à-dire de lui assigner un rôle familial, matrimonial, dans le privé, et elle n'a pas le droit de... Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est de voir que ce sont des femmes de droit. Il y en avait d'autres aussi, puisqu'il y avait des femmes de médecins, etc. Mais c'est le droit qui permet aussi de libérer la femme, hein, quelque part, je trouve. Et à l'heure actuelle, le droit qui a été posé, le droit récent, la loi de d'août 2014, elle fixe l'égalité, c'est-à-dire on se fixe des objectifs, et je dis que c'est en marche, mais on a encore du travail à faire et qu'on retrouve quand même cette même culture qui est sexiste. Voilà.
Nous allons passer tout de suite à l'autre présentation si nous voulons lui donner un petit peu de temps de parole.
Donc cette communication s'appuie sur une partie d'une recherche menée au sein du CIRAP, qui est le laboratoire de recherche de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Une recherche qui porte donc sur la féminisation de l'administration pénitentiaire, puisque aujourd'hui en France, des personnels de surveillance féminins travaillent dans des détentions masculines et des directrices de services pénitentiaires, on appelle les DSP, dirigent des établissements pour hommes. Cela n'a pas toujours été le cas. La tradition réservait, et a réservé pendant longtemps, les traditions masculines au personnel masculin, tandis que les femmes étaient assignées à la garde des femmes et à la garde des mineurs. C'est à l'aune donc de ces deux changements principaux qu'on peut parler vraiment de féminisation, puisque la féminisation, dans sa plus simple définition, correspond à l'entrée de femmes dans des domaines qui étaient que la tradition réservait habituellement aux hommes. Donc lorsque ces changements se produisent, ce qui est intéressant, c'est que la question qui est alors posée, très souvent, pour ne pas dire immanquablement, c'est celle du changement, de la transformation que cette féminisation apporterait en termes de pratiques professionnelles. Certains pouvant alors parler, par exemple, d'un management des prisons au féminin ou encore d'une pacification des relations avec la population carcérale du fait de l'intervention de femmes surveillantes. Alors ces propos qui relèvent, à mon avis, souvent d'opinions, voire de croyances, plus que de faits vraiment objectivés, ont plusieurs limites, plusieurs inconvénients. En premier lieu, il est très difficile dans une démarche de recherche de dégager véritablement la variable sexe comme variable explicative des changements qui traversent une institution. Il y a toujours beaucoup d'autres phénomènes qui interviennent au même moment. Et puis en second lieu, penser une compétence au féminin, c'est quand même tomber dans une sorte de naturalisation des compétences, ce qui revient à manipuler la fameuse différence des sexes, qui ne s'est jamais contentée d'être une simple observation biologique, mais qui a toujours servi de prétexte à une hiérarchie entre les sexes. Penser une compétence au féminin, ça peut être aussi sous l'angle d'une socialisation différenciée, une socialisation genrée, on dit aujourd'hui, qui a le mérite d'éviter l'essentialisation, mais qui occulte des analyses en termes de division et d'hiérarchisation sociale entre les hommes et les femmes. Donc, vous l'aurez compris, en tout cas pour moi, il y a essentiellement des dangers de surinterprétation et d'idéologisation à mettre en tension en fait, des compétences féminines et masculines et à chercher ce que l'une viendrait transformer chez l'autre. Les précautions requises pour l'analyse reviennent donc à ne pas accorder, a priori, à la féminisation un pouvoir de transformation qu'elle aurait en elle-même. Mais ça n'empêche pas de convenir, s'agissant de l'administration pénitentiaire, non pas d'un pouvoir, mais d'un potentiel transformateur de la féminisation. Potentiel qui vient en fait de la série de transgressions que cette féminisation réalise, puisque par définition, la transgression peut être considérée comme un acte premier vers la transformation justement de ce qu'elle a franchi. Donc les femmes qui rentrent dans l'administration pénitentiaire au grade qui était historiquement et traditionnellement masculin, donc on parle ici des personnels de détention en uniforme et puis des personnels de direction, franchissent plusieurs lignes. Et je pousserais même à dire qu'elles franchissent plusieurs tabous. D'abord, en accédant à des métiers qui autorisent le recours légal à la force, les surveillantes, comme les DSP, renversent un privilège masculin et un ordre établi qui, anthropologiquement, réservait aux hommes le maniement des armes et l'exercice de la violence. C'est une première transgression. Et elle en amène une autre, puisque en accédant à ces métiers, la femme devient elle aussi l'instrument de la violence légitime, si bien que ça la fait sortir des cadres normatifs qui font de la passivité sociale des femmes un impératif. Ensuite, une autre transgression, toujours liée à la violence, est constituée par l'entrée de femmes dans un univers qui est frappé de ce que j'ai appelé, faute de mieux, le soupçon du bourreau. C'est particulièrement vrai concernant le métier de surveillant qui souffre énormément de représentations stigmatisantes, parmi lesquelles la violence, la brutalité supposée de ces agents, brutalité qui est incarnée par la figure du maton, celui qui épie, qui dresse, voire même qui brutalise, donc il y a quand même des pratiques un petit peu particulières, et que du coup on soupçonne aussi d'avoir une certaine inclination à exercer de telles pratiques. Donc nouvelle transgression, puisque, et pas des moindres, hein, puisque la femme devient elle aussi l'actrice de ces pratiques-là et la porteuse de telles dispositions. Elle qui est naturellement, vous vous rendez bien compte que je mets des guillemets, à l'opposé, puisque plutôt dans le don de la vie, dans le soin, autrui, etc., etc. Une autre transgression réalisée, c'est le renversement du tabou du commandement. Il concerne principalement les directrices et les gradés de la détention, puisqu'elles font tomber un privilège masculin qui assurait aux hommes d'être toujours les seuls au sommet de la hiérarchie et qui leur garantissait justement l'exclusivité du commandement. Si bien que la dernière transgression, c'est la distorsion des genres, avec éventuellement le tabou supplémentaire de la virilité des femmes, puisque en pénétrant des bastions masculins, en accédant à la violence, en commandant, enfin, etc., ces femmes rompent avec des stéréotypes de genre qui assignent les femmes à des métiers plutôt de la sollicitude, en tout cas qui les tiennent éloignées des univers virils et violents. Et d'une certaine manière, ces femmes rompent aussi avec la continuité supposée entre le sexe biologique et le genre. Et d'ailleurs, il suffit peu pour reprendre Marie-Hélène Boursier pour qu'on les qualifie alors d'agressives, de masculines, voire de camionneuses ou de lesbiennes. Donc, par cette série de transgressions, la féminisation du métier de surveillant ou de direction remet donc potentiellement en cause le modèle de référence masculin et la division sexuelle du travail qui en découle. Or, cette position subversive par rapport à l'ordre masculin et professionnel, c'est-à-dire au fond cette possibilité de transformation, est rattrapée par l'ordre dominant de sexe et l'ordre dominant pénitentiaire. C'est en tout cas l'hypothèse que je suis ici. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement absorbée, mais il y a quand même plusieurs éléments qui participent d'une rentrée dans l'ordre, pour reprendre un terme de fond pour Dieu. C'est surtout flagrant chez les surveillantes, parce qu'il faut rappeler que historiquement déjà, les surveillantes ont plutôt été accueillies dans les détentions masculines comme des intruses, ou au mieux comme des touches exotiques dans la maison des hommes d'une part, et que leur intégration s'est faite dans l'existant, c'est-à-dire dans la prison telle qu'elle existe, sans modification organisationnelle, sans plus de réflexion non plus sur les pratiques professionnelles. Alors, intégrer sans changer l'existant, ça correspond à une intégration par assimilation. Et cela présuppose alors une conformation du mode d'exercice des femmes sur celui des hommes. Ça, c'est théoriquement. Sauf qu'en pratique, et c'est là que ça se complique, c'est précisément l'inverse qu'on a attendu et qu'on a demandé aux surveillantes. Ne pas masculiniser leurs interventions auprès des détenus, mais faire jouer leur nature de femme, être plus à l'écoute, plus dans le dialogue, dans la pacification des relations, et non pas dans un rapport de force que, de toute façon, par nature encore, elles ne pourraient pas tenir. Cette attente-là, si j'y mets de la bonne volonté, on pourrait dire qu'elle peut être valorisante, voire même transformatrice. Sauf que, en prison, cette attente, elle est concrètement subordonnée à un principe organisationnel sécuritaire et répressif. Ce que je veux dire par là, c'est que la prison, malgré ses évolutions, reste organisée autour de logiques défensives répressives qui cherchent à neutraliser et à maîtriser la population qui est détenue. Donc vous comprenez bien que l'argument essentialiste qui prétend valoriser l'intervention des surveillantes et qui distingue leur travail de celui des surveillantes, ben, contient en lui-même les motifs d'une dévaluation des surveillantes et de leur assignation à une place, un rôle subalterne, je dirais même dominé. Parce que fondamentalement, la prison et le métier de surveillant restent définis par l'institution et par les personnels eux-mêmes à partir d'un type de sécurité qui présuppose l'existence d'un rapport de force avec les détenus. Le modèle de surveillant qui circule, l'idéal type, l'image idéale qui circule du surveillant, reste celui qui, par son autorité, sa force, son courage physique, sa rigueur morale, doit impressionner et pouvoir opposer son corps à la violence des détenus. Parce qu'un jour, il devra le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré des évolutions, et je dirais même au-delà des évolutions de l'institution et des pratiques, la représentation virile du métier et la conception sécuritaire qu'elle sous-tend fonctionnent avec une sorte de supériorité sur tous les autres aspects du métier, qui ne sont pas pour autant niés chez les personnels, hein, mais qui n'ont pas du tout cette rente de position. Chaque personnel que j'ai interrogé dans cette recherche précise bien que le travail en détention ne consiste surtout pas à réguler justement la détention par la force, mais tout en maintenant en même temps un modèle supérieur de référence qui est de force et de virilité. Alors c'est un peu paradoxal quand même, et ce paradoxe, il a notamment pour effet de générer une hiérarchisation entre le travail d'un surveillant qui correspond à cette représentation dominante, et puis celui d'une surveillante qui n'y correspond pas. Qui n'y correspond pas du fait de leur nature de femme, mais aussi, et j'allais dire surtout, du fait que, effectivement, c'est-à-dire en réalité, elles ne peuvent pas réaliser la totalité des tâches et des activités du métier en détention masculine. Par un interdit légal, les surveillantes ne peuvent pas fouiller un détenu de sexe masculin. Or, la fouille, c'est un geste qui est éminemment important en détention. D'abord parce que c'est un geste sécuritaire, et vous aurez compris donc que c'est important de raison, et ensuite parce que c'est un geste extrêmement problématique et qui continue malgré la loi de 2009 qui en supprime normalement la systématicité, à être un geste extrêmement fréquent. La fouille, vous imaginez comment ça se passe, et vous comprenez bien que c'est extrêmement difficile à subir, mais ça n'est pas facile à réaliser. C'est ce qu'on peut appeler le sale boulot, c'est-à-dire cette part du travail qui est vraiment en bas de l'échelle des valeurs, qui est fastidieuse, voire même dégradante à réaliser, et dont tout le monde cherche à se défaire, et le fait toujours en le déléguant à ceux qui sont dans une position de domination. Des stagiaires dans une institution, des subalternes dans une organisation, des femmes dans un univers d'hommes. Or, en prison, la présence de femmes fait retomber le sale boulot sur les dominants, sur les hommes. Il y a une inversion là, du schéma de délégation qui entraîne une crispation, je vais dire ça comme ça, des personnels masculins autour de la présence des surveillantes en détention. Et qui appuie l'idée selon laquelle un travail de surveillant est un travail incomplet de surveillant. Donc cette règle légale, en conséquence, vous voyez bien qu'elle assigne les femmes à une place subalterne. C'est en tout cas comme ça que c'est traduit subjectivement par les personnels pénitentiaires. D'autant plus qu'existent d'autres règles, non pas légales mais coutumières cette fois, qui limitent l'accès des femmes à certaines tâches et à certaines activités sécuritaires les plus emblématiques de la détention, comme par exemple les interventions. Elles ne sont pas inopinées, bien sûr. Et le plus souvent, on observe que les surveillantes s'excluent elles-mêmes de ces interventions. Alors évidemment, il existe des femmes qui refusent cette auto-élimination, mais s'aventurant alors dans des régions qui sont le privilège et la performance de la masculinité, eh bien, elles déclenchent quasi automatiquement un jugement esthétique et moral péjoratif négatif. C'est à ce moment-là qu'on dit, bah oui, elle intervient, mais c'est un peu un rugbyman, c'est un vrai mec, c'est une camionneuse, ça sert bien souvent. Aussi donc, vous voyez bien, quelle que soit la stratégie qui est développée, déployée par les surveillantes, qu'elle se conforme à l'ordre dominant en s'excluant elle-même des interventions, donc des contrées viriles, et les voilà dégradées en tant que surveillantes, puisqu'elles font la preuve qu'elles ne peuvent pas exercer tous les aspects du métier, ou qu'elles s'incluent dans les interventions, et les voilà dégradées en tant que femmes, puisque elle s'apparente à un homme, un vrai mec. C'est un peu comme s'il n'y avait pas vraiment d'issue. Et le piège, il est aussi de l'intérieur, parce qu'on observe que les surveillantes sont aspirées par les mêmes contradictions que les surveillants et défendent elles aussi une définition sécuritaire virile du métier, malgré l'importance qu'elles reconnaissent absolument et qu'elles accordent aux relations, c'est-à-dire aux relations sociales en détention. Et donc, en conséquence, elles vont partager également beaucoup de réserves quant à la présence de femmes en détention, et elles peuvent même participer à la stigmatisation de leurs homologues en manipulant notamment des stéréotypes de sexe qu'on connaît tous, hein, c'est l'idée de dire je préfère travailler avec des hommes parce que les femmes c'est... ça fait des histoires, ça se crêpe le chignon, ça... enfin bref, une rhétorique donc assez sexiste qu'on entend quand même beaucoup, mais qui signale surtout, même s'il y a quand même un relent archaïque, mais qui signale surtout le souci de la surveillante de ne pas être identifiée au groupe d'appartenance femme. Et donc, en fait, de faire la preuve qu'elle-même ne possède pas les attributs et les dispositions qui sont jugées péjorativement par l'ordre masculin et l'idéologie sécuritaire dominante. Au fond, il serait possible de regarder cette rentrée dans l'ordre, cette allégeance des femmes, enfin des surveillantes à l'ordre dominant, à partir de leur position dominée dans l'institution pénitentiaire. Elles sont d'autant plus dominées qu'elles sont femmes donc, dans un univers d'hommes, qu'elles sont très minoritaires numériquement. Il y a un quota de recrutement qui fixe à 15% seulement leur entrée, en tout cas théoriquement, et que leur présence n'a pas du tout d'été politique ni militant. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réelle politique de féminisation de la part de l'administration pénitentiaire. Et il n'y a pas non plus de lutte féministe pour leur entrée dans le métier. Alors on peut comprendre le malaise des féministes à militer pour que des femmes adhèrent à un métier de la répression, contribuent à la reproduction des valeurs dominantes extrêmement masculines. Enfin, mais bon, en tout cas, voilà. Une absence d'été politique, une absence d'été militant, qui a pour conséquence d'individualiser et de diviser l'action des surveillantes, leur entrée dans le métier, de ne pas leur permettre de se constituer en collectif face aux hommes, et donc de les placer en situation de devoir toujours assumer seules et chacune leur place et leur rôle. Alors évidemment, la grille de lecture ne peut pas être la même pour les directrices, la grille de lecture de nomination. Alors elles n'ont pas plus de légitimation politique ou féministe, mais ça produit quand même pas les mêmes effets. Elles ne sont pas dominées de la même manière que les surveillantes, puisqu'elles ont franchi une sorte de plafond de verre, et elles sont en position d'incarner l'égalité des sexes. Aujourd'hui, elles sont à peu près à 43%, et bientôt même la domination féminine, puisque d'ici moins de 8 ans, elles seront majoritaires. Pour autant, je rappelle quand même concrètement qu'aujourd'hui, les carrières ne sont pas du tout identiques. Que la forte vague de féminisation n'empêche pas que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à être chefs d'établissement et qu'à ancienneté égale, elles sont aussi beaucoup moins gradées. Alors on pourrait penser que c'est parce qu'elles ne gèrent pas leur carrière de la même façon que les hommes en faisant des choix plutôt par rapport à la famille, comme ça. Non. Ces différences existent alors même que les femmes se montrent tout autant mobiles, fonctionnellement et géographiquement, que les hommes. Donc finalement, le plafond de verre, il s'est juste un peu déplacé. Et c'est au niveau des carrières hein, qu'on retrouve bien cette tension dont je parlais pour les surveillantes entre transgression et conformation. Parce que d'un côté, les DSP, quel que soit leur sexe, ça, par contre, tiennent un discours assez contemporain, qui est marqué par une volonté accrue d'équilibre entre le travail et le hors-travail. Et même chez les DSP, un refus de conformation aux normes de disponibilité, de dévouement, de mobilité qui composent l'éthos classique du métier de DSP. Mais d'un autre côté, l'analyse de leur carrière, et je renvoie aux travaux de Laurence Bessière, montre qu'ils reproduisent concrètement et presque parfaitement cet éthos classique, et que les femmes, loin de transgresser ces normes, s'y conforment également. Ce qui m'amène sur un dernier point, qui est que cette reproduction du modèle traditionnel de forte disponibilité et de dévouement n'est évidemment pas sans poser davantage de problèmes aux femmes DSP, qui restent par ailleurs soumises aux représentations sociales sur leur rôle et leur place, domestique et éducative, et se voient contraintes de gérer simultanément la sphère professionnelle selon les normes en vigueur, et la sphère privée également selon les normes en vigueur, qui continuent donc de les assigner au travail domestique et à l'éducation et aux soins des enfants. Je terminerai alors en disant que l'émancipation des DSP femmes, dans le sens d'une désassignation, si je peux dire ça comme ça, au rôle domestique et éducatif, lorsqu'elle se produit, mais c'est rare, elle se réalise bien souvent au prix de la subordination d'autres femmes, souvent issues de l'immigration des classes populaires, qui vont, elles, assumer la sphère familiale. Donc, émancipation d'un côté, mais qui confirme d'un autre côté le repli de la transgression sur un espace normatif et différentiel entre les sexes. Ce qui revient à dire, en reprenant les termes de Daniel Kergoat, que chez les DSP comme ailleurs, certes, les situations concrètes changent, mais l'écart entre les groupes de sexe demeure. Merci.
Merci Cécile pour cette communication passionnante. Donc je voulais avoir une réaction de Marie-Françoise sur cette présentation. Juste, j'ai l'impression pour l'instant que l'attention autour de la féminisation et de l'égalité est parfois un peu portée plutôt sur le haut de la hiérarchie, du côté des métiers cadres A et A+, alors qu'avec cet exposé, on voit comment la féminisation de métiers masculins dans les petits métiers de la justice, au plus près de la difficulté de l'exercice de la justice, est parfois peut-être moins organisée collectivement, moins réfléchie, ne fait pas l'objet d'une politique, etc. Je voulais avoir votre réaction sur cette dimension.
Alors, oui, je trouve que votre étude est extrêmement intéressante, mais vous avez aussi parlé des petits métiers, c'est-à-dire, enfin, ça n'a rien de péjoratif, mais les métiers de surveillant dans qui est dans l'ordre hiérarchique de la fonction publique, c'est un métier en bas de l'échelle, on peut dire, et vous avez aussi parlé des directeurs. Alors, dans l'administration pénitentiaire, il y a quelque chose qui est assez nouveau, qui s'appelle la revue des cadres, peut-être en avez-vous entendu parler, pour essayer de porter les femmes au-delà du plafond de verre. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, on porte, parce que les femmes catégorie A et A+, ont peut-être la capacité, le temps, la culture aussi pour s'organiser plus, mais c'est vrai qu'on porte plus attention à ces femmes-là qu'aux femmes qui travaillent avec nous et qui ont exactement les mêmes problématiques. Parce que quand on discute dans une organisation, je pense à un tribunal, la femme qui est magistrat, elle a la même, qui est magistrat, qui est chef de juridiction, elle a aussi le même équilibre à garder que la jeune greffière ou la fonctionnaire de catégorie C. Mais c'est vrai que cet aspect, on a plus éclairé et il y a plus d'associations, par exemple, comme Femmes de Justice, comme Femmes de l'Intérieur, ce sont effectivement des cadres. C'est vrai, je l'ai dit en propos préliminaire, c'est parce qu'il faut se mobiliser. Je ne sais pas si vous voyez les luttes qui remontent au-delà de deux siècles antérieurs, et donc c'est vrai que c'est pas simple, et ce sont bien sûr celles qui ont la chance d'avoir plus d'instruction des autres, plus de culture, qui vont se mobiliser. Mais je pense quand même que nous travaillons pour tout le monde. Hein. Et voilà.
Merci beaucoup. On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Je regarde les organisateurs.
Oui, c'était une question sur la différenciation suivant les types de prisons. Et notamment, parce que très souvent, on caractérise en France. Alors, excusez-moi, j'en ai des noms, je suis trop fatigué. Entre maison d'arrêt et. En gros, les longues peines, courtes peines, etc. Des formes d'organisation, on va dire, mais également des condamnations dans l'organisation par un CEDH assez variable, la question de la cellule unique, etc. Et donc, est-ce que vous retrouvez des différenciations suivant le type d'établissement aussi et de quelle nature?
En fait, les femmes, alors qu'elles soient directrices ou surveillantes ou gradées, sont affectées dans tout type d'établissement. Il n'y a pas de différence, en tout cas statistiquement significative, avec les hommes. Et à la rigueur, la seule différence là, c'est que les hommes ne sont pas affectés en détention féminine. Il n'y a que les gradés hommes qui deviennent. Donc, la discrimination, elle est plutôt à ce niveau-là dans l'autre sens. Après, statistiquement, les femmes sont plus souvent... expédié, j'allais dire, c'est pas ça, muté, non mais affecté, merci, affecté dans les maisons d'arrêt, mais c'est pas lié là pour le coup au sexe, c'est parce que ce sont les établissements qui sont les beaucoup plus demandeurs de premier poste. Ça consomme beaucoup de surveillants. Et comme en plus, malgré les 15% de taux de recrutement de féminisation, on les dépasse très souvent au fur et à mesure des promotions, eh bien, il peut y avoir comme ça des vagues de stagiaires femmes qui entrent dans les maisons d'arrêt, et surtout dans les maisons d'arrêt de la région parisienne. Donc il y a une petite différence, mais qui s'explique plutôt par ce fonctionnement-là que par un effet de genre.
Bonjour. Suite à votre intervention, vous avez parlé des femmes qui tentent d'être soit dans l'assimilation du métier, de ce qu'on demande en qualité, soi-disant, supposée, nécessaire à l'exercice de cette activité. Donc soit de l'assimilation, soit de la transgression. Vous avez bien expliqué ce fonctionnement. Donc finalement, quelque part, un peu des femmes qui veulent être des hommes comme les autres. Et je crois que c'est un phénomène que vous avez décrit dans l'administration pénitentiaire, mais qu'on pourrait retrouver sans aucun doute dans la magistrature et peut-être dans la protection judiciaire de la jeunesse que je connais moins, mais je pense que dans la magistrature, c'est une évidence. C'est-à-dire cette volonté de considérer, ça a beaucoup été rappelé aux magistrateux quand elles sont arrivées dans la magistrature, que finalement elles rendaient les mêmes décisions que les hommes, qu'elles allaient travailler comme les hommes, et que donc finalement ça n'était pas un sujet. Ce qui a permis pendant longtemps que finalement la féminisation de la magistrature soit impensée, strictement impensée, avec aucun mot posé sur ce sujet. Alors ma question était, dans votre étude sur l'administration pénitentiaire, est-ce que vous avez senti à travers vos entretiens, aussi bien avec des surveillants que des DSP, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez aussi interrogé l'administration pénitentiaire et comment elle posait son regard sur tout ça? Est-ce qu'elle posait des mots, peut-être même au-delà des mots, des écrits stratégiques, hein, sur la vision à moyen terme désormais de ces métiers qui se féminisent? Vous avez rappelé à juste titre que bientôt les DSP, elles aussi, seraient majoritairement des femmes, comme c'est le cas dans la magistrature. Il faut rappeler, depuis 2002, les femmes sont majoritaires dans la magistrature, bien que finalement, on ait l'impression qu'il n'y ait pas de pensée stratégique du corps les concernant. Alors, est-ce que pour l'administration pénitentiaire, c'est le cas?
Pour l'administration pénitentiaire, les réponses que j'ai interrogées au niveau de la centrale, les réponses que j'ai pu avoir, c'est que l'administration se fixait comme ligne d'horizon la parité pour les types de recrutement, voilà. Et à l'époque où je l'ai interrogée, en tout cas, je sais que les gens ont changé, mais la réponse qui m'a été faite, c'est que tout le monde savait effectivement que d'ici quelques années, la féminisation allait grossir et puis ça allait devenir vraiment exponentiel. Et pour autant, aucune stratégie pour le moment n'est mise en place. Bah, ce qui risque de la mettre face à une nouvelle inégalité, mais cette fois-ci dans le sens des hommes. Voilà. Et il m'a semblé aussi avoir, du point de vue de la centrale, un discours qui continuait à être très très essentialiste.
Juste ironiquement, la différence entre l'égalité et l'égalité réelle, c'est quoi?
C'est la réalité. L'égalité réelle, c'est l'égalité constatée.
Mais il y a un texte de loi par définition, mais c'est censé être que le mot. C'est ça qui me gêne. On aura un jour applicabilité de la réalité, de l'effectivité, du respect de l'égalité.
Vous savez, entre les textes et la réalité, il y a des fois un fossé. Et quand on met des mots, les mots, peut-être, même dans une loi, ils sont peut-être plus parlants. Quand on dit égalité réelle, c'est qu'on demande des constatations. C'est comme un jugement qui est exécuté, c'est un bon jugement. Un jugement qui n'est pas exécuté, c'est pas un jugement. Les mots ont un sens.
Et juste sur le plan pratique, pour les magistrates, j'ai pas bien compris, la mobilité, c'est un impératif. Alors comment concilier vie familiale, changement de domicile, écartèlement vis-à-vis du conjoint et la carrière? J'ai pas compris comment on fait.
Comment on fait?
Pour le bien-être du bébé.
La mobilité n'est pas une exigence obligatoire, puisque pour les magistrats du siège, on peut rester sur le même poste, puisqu'on est inamovible, si vous voulez, dans la plupart des postes. Pas les postes de direction, mais donc, si vous voulez, si on veut avoir un parcours professionnel normal, hein, c'est-à-dire avancer dans les grades de la magistrature, premier grade, second grade, premier grade et hors hiérarchie, il faut nécessairement changer de poste, changer de ville. Et il y a des magistrats qui ont fait des déménagements et des déménagements et qui ont emmené leur famille. Et comment on fait? Eh bien, on le fait. Et ce qu'on demande, ce qu'on voudrait demander nous, c'est qu'on soit prévenu à l'avance pour pouvoir s'organiser. Parce qu'on sait, on a vu les femmes, par exemple, les femmes diplomates, elles font comme nous aussi. Et elles, c'est dans leur statut, elles savent qu'elles vont à l'étranger. Nous, on sait qu'on doit changer de région en France. Mais si on pouvait être prévenu, si aussi on pouvait être, par exemple, accompagné quand on a un conjoint dans le privé, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de trouver, nous aider à trouver un travail ou un lycée si il est ou elle est fonctionnaire de l'éducation nationale. Mais là, on n'a aucune aide, si vous voulez. On n'a aucune aide, contrairement, par exemple, on n'est pas logé, etc. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun accompagnement, mais on a une obligation de mobilité géographique. Et jusqu'à présent, les femmes vont assumer. Comme les hommes, d'ailleurs, oui, comme les hommes. Oui, tout à fait, c'est pareil. Ça, il y a parité, là.
Il y a parité, mais évidemment, tous les travaux sociologiques permettent de montrer que, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les femmes n'étaient pas dans les mêmes configurations familiales que leurs collègues, et donc que les règles produisaient une discrimination indirecte, puisque les collègues masculins pouvaient plus facilement être dans cette norme de la mobilité répétée et continue, et donc que le jeu était inégal. Après, l'idée, c'est de construire un jeu qui permette une égalité des chances, ensuite, à certaines femmes, de jouer ou pas.
Bien sûr, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous.
S'il vous plaît. Oui. Oui, merci. Pour continuer un peu le débat, effectivement, comment font les femmes? Eh bien, on voit apparaître les temps partiels. Moi, quand je suis rentrée dans la magistrature il y a 25 ans, il y avait zéro temps partiel chez les magistrats. Maintenant, il y a énormément de temps partiel. Les greffes, moi, dans mon tribunal, beaucoup de greffières sont absentes le mercredi. Et maintenant, beaucoup de magistrats, eux, sont absentes le mercredi. Parce qu'effectivement, il faut s'occuper des enfants en même temps qu'on travaille. Et ce qu'on constate, alors dans le Nord, hein, parce que je suis dans le Nord, donc je ne sais pas si c'est valable pour le reste de la France, mais quand une femme se met en temps partiel, elle s'y met quand les enfants sont bébés, mais elle y reste ensuite, y compris quand ils sont grands, voire quand ils ont quitté la maison. Donc ce sont des habitudes de vie qui sont prises pour raisons familiales, mais qui se maintiennent ensuite. Deuxième chose, le fait de mettre effectivement égalité réelle, c'est vrai que c'est surprenant. L'égalité, si elle n'est pas réelle, elle n'y est pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on y pense, le fait même de devoir faire une loi pour avoir l'égalité, c'est déjà un problème en soi, puisqu'il me semble que dans notre devise et dans la Constitution, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, etc., etc. Donc, déjà, au départ, il n'y a pas besoin... Non, mais les hommes, genre humain. Déjà, au départ, il n'y a pas nécessité... Il ne devrait pas y avoir nécessité de faire une loi. Ensuite, la question des hommes, effectivement, on voit apparaître, hein, chez les jeunes collègues masculins, une mobilité tout à fait réduite, tout aussi réduite maintenant que celle des femmes, puisque les hommes sont mariés avec des femmes qui bien souvent travaillent et sont elles aussi fixées. Donc on voit plus de célibataires géographiques hommes que femmes, mais on en voit de moins en moins. Et chez les jeunes, on en voit de moins en moins. Les jeunes sont moins disposés à sacrifier leur vie familiale. Ils ont envie d'être à la maison le soir et de s'occuper de leurs enfants aussi. Il y a quand même des choses qui ont bougé depuis 25 ans.
Et si je peux me permettre de faire un peu d'autopromotion, nous avons fait une étude pour la DGAFP qui s'appelle le plafond de verre dans les ministères et qui décrypte l'ensemble des normes organisationnelles qui sont portées par les différents ministères et les stratégies des femmes et des hommes pour y répondre. L'exemple des mobilités réduites étant par exemple cité. Bon, je crois qu'il faut que nous laissons la place pour l'autre table ronde. Merci beaucoup aux différents intervenants. Merci.